conclusion, grand cas. Nous pouvons maintenant aborder une dernière question que posait déjà notre introduction et qui est restée comme sous-entendue dans toute la suite de cet ouvrage. Nous avons vu que certaines, tout au moins des catégories, sont choses sociales. Il s'agit de savoir d'où leur vient ce caractère. Sans doute, puisqu'elles sont elles-mêmes des concepts, on comprend sans peine qu'elles soient l'œuvre de la collectivité. Il n'est même pas de concept qui présente au même degré les signes auxquels se reconnaît une représentation collective. En effet, leur stabilité et leur impersonnalité sont telles qu'elles ont souvent passé pour être absolument universelles et immuables. D'ailleurs, comme elles expriment les conditions fondamentales de l'entente entre les esprits, il paraît évident qu'elles n'ont pu être élaborées que par la société. Mais en ce qui les concerne, le problème est plus complexe, car elles sont sociales en un autre sens, et comme au second degré. Non seulement elles viennent de la société, mais les choses mêmes qu'elles expriment sont sociales. Non seulement c'est la société qui les a instituées, mais ce sont des aspects différents de l'être social qui leur servent de contenu. La catégorie de genre a commencé par être indistincte du concept de groupe humain. C'est le rythme de la vie sociale qui est à la base de la catégorie de temps. C'est l'espace occupé par la société qui a fourni la matière de la catégorie d'espace. C'est la force collective qui a été le prototype du concept de force efficace, élément essentiel de la catégorie de causalité. Cependant, les catégories ne sont pas faites pour s'appliquer uniquement au règne social. Elles s'étendent à la réalité tout entière. Comment donc est-ce à la société qu'ont été empruntés les modèles sur lesquels elles ont été construites ? C'est que ce sont des modèles éminents qui jouent dans la connaissance un rôle prépondérant. Les catégories ont en effet pour fonction de dominer et d'envelopper tous les autres concepts. Ce sont les cadres permanents de la vie mentale. Or, pour qu'elles puissent embrasser un tel objet, il faut qu'elles se soient formées sur une réalité d'une égale ampleur. Sans doute, les relations qu'elles expriment existent, d'une manière implicite, dans les consciences individuelles. L'individu vit dans le temps, et il a, comme nous l'avons dit, un certain sens de l'orientation temporelle. Il est situé à un point déterminé de l'espace, et on a pu soutenir, avec de bonnes raisons, que toutes ces sensations ont quelque chose de spatial. Il a le sentiment des ressemblances. En lui, les représentations similaires s'appellent, se rapprochent, et la représentation nouvelle, formée par leur rapprochement, a déjà quelques caractères génériques. Nous avons également la sensation d'une certaine régularité dans l'ordre de succession des phénomènes. L'animal lui-même n'en est pas incapable. Seulement, toutes ces relations sont personnelles à l'individu qui y est engagé. Et par suite, la notion qu'il en peut acquérir ne peut, en aucun cas, s'étendre au-delà de son étroit horizon. Les images génériques qui se forment dans ma conscience par la fusion d'images similaires ne représentent que les objets que j'ai directement perçus. Il n'y a rien là qui puisse me donner l'idée d'une classe, c'est-à-dire d'un cadre capable de comprendre le groupe total de tous les objets possibles qui satisfont à la même condition. Encore faudrait-il avoir au préalable l'idée de groupe, que le seul spectacle de notre vie intérieure ne saurait suffire à éveiller en nous. Mais surtout, il n'y a pas d'expérience individuelle, si étendue et si prolongée soit-elle, qui puisse nous faire même soupçonner l'existence d'un genre total, qui embrasserait l'universalité des êtres, et dont les autres genres ne seraient que des espèces coordonnées entre elles ou subordonnées les unes aux autres. Cette notion du tout, qui est à la base des classifications que nous avons rapportées, ne peut nous venir de l'individu qui n'est lui-même qu'une partie par rapport au tout et qui n'atteint jamais qu'une fraction infime de la réalité. Et pourtant, il n'est peut-être pas de catégorie plus essentielle. Car comme le rôle des catégories est d'envelopper tous les autres concepts, La catégorie par excellence paraît bien devoir être le concept même de totalité. Les théoriciens de la connaissance le postulent d'ordinaire, comme s'il allait de soi, alors qu'il dépasse infiniment le contenu de chaque conscience individuelle, prise à part. Pour les mêmes raisons, l'espace que je connais par mes sens, dont je suis le centre et où tout est disposé par rapport à moi, ne saurait être l'espace total, qui contient toutes les étendues particulières, et où de plus, elles sont coordonnées par rapport à des points de repère impersonnels, communs à tous les individus. De même, la durée concrète que je sens s'écouler en moi et avec moi ne saurait me donner l'idée du temps total. La première n'exprime que le rythme de ma vie individuelle. Le second doit correspondre au rythme d'une vie qui n'est celle d'aucun individu en particulier, mais à laquelle tous participent. De même, enfin, les régularités que je puis percevoir dans la manière dont mes sensations se succèdent peuvent bien avoir de la valeur pour moi. Elles expliquent comment, quand l'antécédent d'un couple de phénomènes dont j'ai expérimenté la constance m'est donné, je tends à attendre le conséquent. Mais cet état d'attente personnelle ne saurait être confondu avec la conception d'un ordre universel de succession, qui s'impose à la totalité des esprits et des événements. Puisque le monde qu'exprime le système total des concepts est celui que se représente la société seule peut nous fournir les notions les plus générales, suivant lesquelles il doit être représenté. Seul un sujet qui enveloppe tous les sujets particuliers est capable d'embrasser un tel objet. Puisque l'univers n'existe qu'autant qu'il est pensé, et puisqu'il n'est pensé totalement que par la société, il prend place en elle. Il devient un élément de sa vie intérieure, et ainsi, elle est elle-même le genre total en dehors duquel il n'existe rien. Le concept de totalité n'est que la forme abstraite du concept de société. Elle est le tout qui comprend toute chose, la classe suprême qui renferme toutes les autres classes. Tel est le principe profond sur lequel reposent ces classifications primitives, où les êtres de tous les règnes sont situés et classés dans les cadres sociaux au même titre que les hommes. Mais si le monde est dans la société, l'espace qu'elle occupe se confond avec l'espace total. Nous avons vu en effet comment chaque chose a sa place assignée sur l'espace social. Et ce qui montre bien à quel point cet espace total diffère des étendues concrètes que nous font percevoir les sens, c'est que cette localisation est tout idéale et ne ressemble en rien à ce qu'elle serait si elle ne nous était dictée que par l'expérience sensible. Pour la même raison, le rythme de la vie collective domine et embrasse les rythmes variés de toutes les vies élémentaires dont il résulte. Par suite, le temps qu'il exprime domine et embrasse toutes les durées particulières. C'est le temps total. L'histoire du monde n'a été pendant longtemps qu'un autre aspect de l'histoire de la société. L'une commence avec l'autre. Les périodes de la première sont déterminées par les périodes de la seconde. Ce qui mesure cette durée impersonnelle et globale, ce qui fixe les points de repère par rapport auxquels elle est divisée et organisée, ce sont les mouvements de concentration ou de dispersion de la société. Ce sont les mouvements de concentration ou de dispersion de la société. Plus généralement, ce sont les nécessités périodiques de la réflexion collective. Si ces instants critiques se rattachent le plus souvent à quelques phénomènes matériels, comme la récurrence régulière de tel astre ou l'alternance des saisons, c'est parce que des signes objectifs sont nécessaires pour rendre sensible à tous cette organisation essentiellement sociale. De même, enfin, la relation causale, du moment où elle est posée collectivement par le groupe, se trouve indépendante de toute conscience individuelle. Elle plane au-dessus de tous les esprits et de tous les événements particuliers. C'est une loi d'une valeur impersonnelle. Nous avons montré que c'est bien ainsi qu'elle paraît avoir pris naissance. Une autre raison explique que les éléments constitutifs des catégories aient dû être empruntés à la vie sociale. C'est que les relations qu'elles expriment ne pouvaient devenir conscientes que dans et par la société. Si, en un sens, elles sont immanentes à la vie de l'individu, celui-ci n'avait aucune raison ni aucun moyen de les appréhender, de les réfléchir, de les expliciter et de les ériger en notions distinctes. Pour s'orienter personnellement dans l'étendue, pour savoir à quel moment il devait satisfaire aux différentes nécessités organiques, il n'avait nul besoin de se faire, une fois pour toutes, une représentation conceptuelle du temps ou de l'espace. Bien des animaux savent retrouver le chemin qui les mène aux endroits qui leur sont familiers. Ils y reviennent au moment convenable, sans qu'ils aient pourtant aucune catégorie. Des sensations suffisent à les diriger automatiquement. Elles suffiraient également à l'homme si ses mouvements n'avaient à satisfaire qu'à des besoins individuels. Pour reconnaître qu'une chose ressemble à d'autres dont nous avons déjà l'expérience, il n'est nullement nécessaire que nous rangions les unes et les autres en genre et en espèce. La manière dont les images semblables s'appellent et fusionnent suffit à donner le sentiment de la ressemblance. L'impression du déjà-vu, du déjà-éprouvé, n'implique aucune classification. Pour discerner les choses que nous devons rechercher de celles que nous devons fuir, nous n'avons que faire de rattacher les effets des unes et des autres à leur cause, par un lien logique, lorsque des convenances individuelles sont seules en jeu. Des consécutions purement empiriques, de fortes connexions entre des représentations concrètes sont, pour la volonté, des guides tout aussi sûrs. Non seulement l'animal n'en a pas d'autres, mais très souvent, notre pratique privée ne suppose rien de plus. L'homme avisé est celui qui a, de ce qu'il faut faire, une sensation très nette, mais qu'il serait le plus souvent incapable de traduire en loi. Il en est autrement de la société. Celle-ci n'est possible que si les individus et les choses qui la composent sont répartis en différents groupes, c'est-à-dire classés, et si ces groupes eux-mêmes sont classés les uns par rapport aux autres. La société suppose donc une organisation consciente de soi qui n'est autre chose qu'une classification. Cette organisation de la société se communique naturellement à l'espace qu'elle occupe. Pour prévenir tout heurt, il faut que, à chaque groupe particulier, une portion déterminée d'espace soit affectée. En d'autres termes, il faut que l'espace total soit divisé, différencié, orienté, et que ces divisions et ces orientations soient connues de tous les esprits. D'autre part, toute convocation à une fête, à une chasse, à une expédition militaire implique que des dates soient fixées, convenues, et par conséquent qu'un temps commun est établi, que tout le monde conçoit de la même façon. Enfin, le concours de plusieurs en vue de poursuivre une fin commune n'est possible que si l'on s'entend sur le rapport qui existe entre cette fin et les moyens qui permettent de l'atteindre, c'est-à-dire si une même relation causale est admise par tous les coopérateurs de la même entreprise. Il n'est donc pas étonnant que le temps social, l'espace social, les classes sociales, la causalité collective soient à la base des catégories correspondantes, puisque c'est sous leur forme sociale que des différentes relations ont pour la première fois été appréhendées avec une certaine clarté par la conscience humaine. En résumé, la société n'est nullement l'être illogique ou alogique, incohérent et fantasque, qu'on se plaît trop souvent à voir en elle. Tout au contraire, la conscience collective est la forme la plus haute de la vie psychique, puisque c'est une conscience de conscience. Placée en dehors et au-dessus des contingences individuelles et locales, elle ne voit les choses que par leur aspect permanent et essentiel, qu'elle fixe en des notions communicables. En même temps qu'elle voit de haut, elle voit au loin. À chaque moment du temps, elle embrasse toute la réalité connue. C'est pourquoi elle seule peut fournir à l'esprit des cadres qui s'appliquent à la totalité des êtres et qui permettent de les penser. Ces cadres, elle ne les crée pas artificiellement, elle les trouve en elle, elle ne fait qu'en prendre conscience. Ils traduisent des manières d'être qui se rencontrent à tous les degrés du réel, mais qui n'apparaissent en pleine clarté qu'au sommet, parce que l'extrême complexité de la vie psychique qui s'y déroule nécessite un plus grand développement de la conscience. Attribuer à la pensée logique des origines sociales, ce n'est donc pas la rabaisser, en diminuer la valeur, la réduire à n'être qu'un système de combinaisons artificielles. C'est au contraire la rapporter à une cause qui l'implique naturellement. Ce n'est pas à dire, assurément, que des notions élaborées de cette manière puissent se trouver immédiatement adéquates à leurs objets. Si la société est quelque chose d'universel par rapport à l'individu, elle ne laisse pas d'être elle-même une individualité qui a sa physionomie personnelle, son idiosyncrasie. C'est un sujet particulier et qui, par suite, particularise ce qu'il pense. Les représentations collectives contiennent donc elles aussi des éléments subjectifs, et il est nécessaire qu'elles soient progressivement épurées pour devenir plus proches des choses. Mais si grossières qu'elles puissent être à l'origine, il reste qu'avec elles, le germe d'une mentalité nouvelle était donné, à laquelle l'individu n'aurait jamais pu s'enlever par ses seules forces. Dès lors, la voie était ouverte à la pensée stable, impersonnelle et organisée, qui n'avait plus ensuite qu'à développer sa nature. D'ailleurs, les causes qui ont déterminé ce développement semblent bien ne pas différer spécifiquement de celles qui en ont suscité le germe initial. Si la pensée logique tend de plus en plus à se débarrasser des éléments subjectifs et personnels qu'elle charrie, encore à l'origine, ce n'est pas parce que des facteurs extrasociaux sont intervenus. C'est beaucoup plus tôt parce qu'une vie sociale d'un genre nouveau s'est de plus en plus développée. Il s'agit de cette vie internationale qui a déjà pour effet d'universaliser les croyances religieuses. À mesure qu'elle s'étend, l'horizon collectif s'élargit. La société cesse d'apparaître comme le tout par excellence pour devenir la partie d'un tout beaucoup plus vaste, aux frontières indéterminées et susceptibles de reculer indéfiniment. Par suite, les choses ne peuvent plus tenir dans les cadres sociaux où elles étaient primitivement classées. Elles demandent à être organisées d'après des principes qui leur soient propres, et ainsi, l'organisation logique se différencie de l'organisation sociale et devient autonome. Voilà, semble-t-il, comment le lien qui rattachait tout d'abord la pensée à des individualités collectives déterminées va de plus en plus en se détachant. Comment, par suite, elle devient toujours impersonnelle et s'universalise. La pensée vraiment et proprement humaine n'est pas une donnée primitive, c'est un produit de l'histoire. C'est une limite idéale dont nous nous rapprochons toujours davantage, mais que, selon toute vraisemblance, nous ne parviendrons jamais à atteindre. Ainsi, bien loin qu'il y ait entre la science d'une part, la morale et la religion de l'autre, l'espèce d'antinomie qu'on a si souvent admise, ces différents modes de l'activité humaine dérivent en réalité d'une seule et même source. C'est ce qu'avait bien compris Kant, et c'est pourquoi il a fait de la raison spéculative et de la raison pratique deux aspects différents de la même faculté. Ce qui, suivant lui, fait leur unité, c'est qu'elles sont toutes deux orientées vers l'universel. Penser rationnellement, c'est penser suivant des lois qui s'imposent à l'universalité des êtres raisonnables. Agir moralement, c'est se conduire suivant des maximes qui puissent, sans contradiction, être étendues à l'universalité des volontés. En d'autres termes, la science et la morale impliquent que l'individu est capable de s'élever au-dessus de son point de vue propre et de vivre d'une vie impersonnelle. Et il n'est pas douteux, en effet, que ce ne soit là un trait commun à toutes les formes supérieures de la pensée et de l'action. Seulement, ce que le kantisme n'explique pas, c'est d'où vient l'espèce de contradiction que l'homme se trouve ainsi réalisé. Pourquoi est-il contraint de se faire violence pour dépasser sa nature d'individu? Et inversement, pourquoi la loi impersonnelle est-elle obligée de déchoir en s'incarnant dans des individus? Dira-t-on qu'il existe deux mondes antagonistes auxquels nous participons également? Le monde de la matière et des sens d'une part, le monde de la raison pure et impersonnelle de l'autre? Mais c'est répéter la question dans des termes à peine différents. car il s'agit précisément de savoir pourquoi il nous fait mener concurremment ces deux existences. Pourquoi ces deux mondes, qui semblent se contredire, ne restent-ils pas en dehors l'un de l'autre ? Et qu'est-ce qui les nécessite à se pénétrer mutuellement, en dépit de leur antagonisme ? La seule explication qui ait jamais été donnée de cette nécessité singulière est l'hypothèse de la chute, avec toutes les difficultés qu'elle implique, et qu'il est inutile de rappeler ici. Au contraire, tout mystère disparaît du moment où l'on a reconnu que la raison impersonnelle n'est qu'un autre nom donné à la pensée collective. Car celle-ci n'est possible que par le groupement des individus. Elle les suppose donc, et à leur tour, ils la supposent parce qu'ils ne peuvent se maintenir qu'en se groupant. Le règne des fins et des vérités impersonnelles ne peut se réaliser que par le concours des volontés et des sensibilités particulières, et les raisons pour lesquelles celles-ci y participent sont les raisons mêmes pour lesquelles elles concourent. En un mot, il y a de l'impersonnel en nous parce qu'il y a du social en nous, et comme la vie sociale comprend à la fois des représentations et des pratiques, cette impersonnalité s'étend tout naturellement aux idées comme aux actes. On s'étonnera peut-être de nous voir rapporter à la société les formes les plus élevées de la mentalité humaine. La cause paraît bien humble, eu égard à la valeur que nous prêtons à l'effet. Entre le monde des sens et des appétits d'une part, celui de la raison et de la morale de l'autre, la distance est si considérable que le second semble n'avoir pu se rajouter au premier que par un acte créateur. Mais attribuer à la société ce rôle prépondérant dans la genèse de notre nature, ce n'est pas nier cette création, car la société dispose précisément d'une puissance créatrice qu'aucun être observable ne peut égaler. Toute création, en effet, à moins d'être une opération mystique qui échappe à la science et à l'intelligence, est le produit d'une synthèse. Or, si les synthèses de représentations particulières qui se produisent au sein de chaque conscience individuelle sont déjà, par elles-mêmes, productrices de nouveautés, combien sont plus efficaces ces vastes synthèses de conscience complète que les sociétés ? Une société, c'est le plus puissant faisceau de forces physiques et morales dont la nature nous offre le spectacle. Nulle part on ne trouve une telle richesse de matériaux divers, portés par un tel degré de concentration. Il n'est donc pas surprenant qu'une vie plus haute s'en dégage, qui, réagissant sur les éléments dont elle résulte, les élève à une forme supérieure d'existence et les transforme. Ainsi, la sociologie paraît appelée à ouvrir une voie nouvelle à la science de l'homme. Jusqu'ici, on était placé en face de cette alternative. Ou bien expliquer les facultés supérieures et spécifiques de l'homme en les ramenant aux formes inférieures de l'être, la raison au sens, l'esprit à la matière, ce qui revenait à nier leur spécificité, ou bien les rattacher à quelques réalités supra-expérimentales, que l'on postulait mais dont aucune observation ne peut établir l'existence. Ce qui mettait l'esprit dans cet embarras, c'est que l'individu passait pour être finis naturae. Il semblait qu'au-delà, il n'y eut plus rien, du moins rien que la science pût atteindre. Mais du moment où l'on a reconnu qu'au-dessus de l'individu, il y a la société, et que celle-ci n'est pas un être nominal et de raison, mais un système de forces agissantes, une nouvelle manière d'expliquer l'homme devient possible. Pour lui conserver ses attributs distinctifs, il n'est plus nécessaire de les mettre en dehors de l'expérience. Tout au moins, avant d'en venir à cette extrémité, il convient de rechercher si ce qui, dans l'individu, dépasse l'individu, ne lui viendrait pas de cette réalité supra-individuelle, mais donnée dans l'expérience, qu'est la société. Certes, on ne saurait dire dès maintenant jusqu'où ces explications peuvent s'étendre et si elles sont de nature à supprimer tous les problèmes. Mais il est tout aussi impossible de marquer par avance une limite qu'elle ne saurait dépasser. Ce qu'il faut, c'est essayer l'hypothèse, la soumettre aussi méthodiquement qu'on peut au contrôle des faits. c'est ce que nous avons essayé de réaliser.